milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quel avenir pour les prisons? Alors qu'un énième plan a été annoncé hier en France pour les prisons et la surpopulation carcérale qui atteint des records, je reçois Jean-Marie Delarue, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes conseiller d'État, premier contrôleur général des lieux de privation de liberté en France. Vous avez œuvré une bonne partie de votre vie pour l'amélioration des conditions de détention. Vous êtes aussi celui qui a fait connaître aux Français la réalité des prisons et permis aux Français de se poser de vraies questions sur la prison. Vous avez visité également des prisons forcément dans le monde entier. Vous avez coordonné un petit livre qui est sorti il y a quelques mois et qui permet à tout citoyen finalement de se poser les bonnes questions. Prison, quel avenir? À quoi sert la prison aujourd'hui? Ou plutôt, à quoi devrait-elle servir? À protéger la société, à rendre les individus meilleurs à leur sortie, à réinsérer. Voilà. On va discuter bien sûr de tout cela avec vous également, Bernard Bols. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur, vous avez fondé il y a 25 ans l'Observatoire international des prisons, l'OIP, et vous venez de lancer un site internet, Prison Insider, premier site au monde qui recense toutes les informations disponibles pour rendre public ce qui se passe à l'intérieur des prisons, avec notamment des comparaisons internationales sur l'enfermement. Dans une époque marquée par l'inquiétude sécuritaire, peut-on aujourd'hui mobiliser les citoyens sur le comment enfermer, alors que précisément la prison est soupçonnée, à tort ou à raison, d'être le lieu de toutes les perditions, violences, délinquances, radicalisations terroristes? Existe-t-il finalement des pays où le débat sur les prisons n'est pas confisqué par des calculs politiques? Et bien évidemment, vous avez la parole, les voisins, les voisines, si vous souhaitez nous appeler, si vous sentez concerné par les conditions de détention dans votre pays. Vous pouvez composer le numéro dès maintenant 33 1 84 22 71 71 et bien sûr aussi vos messages sur les réseaux sociaux. Je vous lis le message d'Ahmed à Dakar. Hier, les prisonniers de Rebeus à Dakar se révoltaient contre la détention préventive jusqu'à en mourir. C'est catastrophique. Certains sont toujours en prison depuis plusieurs années, n'ont pas encore été jugés. Certains ont commis des vols, ne sont pas jugés, purgent des peines pas possibles dans des cellules où plus de 200 personnes s'y trouvent. Imaginez une seule cellule où plus de 200 prisonniers sont regroupés pendant des années avec une chaleur intenable. C'est vraiment désolant dans un pays comme le Sénégal en voie d'émergence. Un autre message aussi énervé d'un Dakarois. L'État doit revoir le système judiciaire de notre pays parce que les détentions préventives sont très longues. L'affrontement qui a eu lieu à Rebeus hier prouve bien que les prisonniers sont frustrés. Effectivement, il y a eu une mutinerie hier, un mort, plus de 40 blessés, détenus comme surveillants d'ailleurs, dans le principal établissement pénitentiaire de Dakar, qui est largement surpeuplé par rapport à sa capacité de départ de 800 places. Et on voit bien que les citoyens sont inquiets, voire offusqués. Gandhi est à Goma, l'est de la RDC. Les conditions carcérales, nous dit Gandhi, dans la prison centrale de Mwenzese de Goma, sont spartiates. Les prisonniers dorment à même le sol, dans la cour, à la merci des intempéries. D'autres dorment entassés par dizaines dans des cellules. La nourriture est insuffisante, de mauvaise qualité. Certains sont emprisonnés depuis plus d'un an et sont encore en attente d'un jugement. Parfois, ils ne connaissent pas l'évolution de leur dossier. Elvis à Kinshasa, également à RDC. En principe, la prison est un centre de rééducation, mais la nôtre, la prison centrale de Makala, à Kinshasa, est plus qu'un enfer. Encore Valérie qui est à Yaoundé au Cameroun nous dit « Heureusement que les prisons existent, elles permettent de protéger les citoyens honnêtes de ceux qui représentent un risque pour la société. » Voilà, on le voit bien tout de même, la prison interpelle. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Jean-Marie Delarue, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, d'ailleurs tout à fait inconnu des Français au passage, a présenté hier son plan pour les prisons. Alors peut-être avant de parler de contenu, l'agenda, on est en pleine angoisse face au risque terroriste et on est à 7 mois d'une élection présidentielle. Est-ce qu'il y a un plus mauvais timing pour lancer un débat public sur les prisons ?
Oui, je ne crois pas qu'il y ait de bon ou de mauvais timing. Je crois que la question de la prison, vos interlocuteurs que vous avez cités tout à l'heure l'ont dit très bien, la question de la prison est une question permanente. Et par conséquent, il faut y réfléchir continuellement. Alors moi, ce que je voudrais dire sur la prison, c'est que d'une part, il n'y a pas de lien direct entre la prison et la délinquance, comme on pourrait le croire naïvement. C'est-à-dire la quantité de prisonniers dans un pays donné n'est pas en relation directe avec la délinquance. Il y a derrière ce que vos interlocuteurs ont très bien dit, les choix de l'appareil judiciaire, du système pénal. Quand dans un pays, on met beaucoup de temps à juger, il y a par conséquent, vos interlocuteurs vous l'ont écrit, beaucoup de détenus provisoires. Ça augmente la surpopulation carcérale.
30%, il y a des gens... en France, dans les maisons d'arrêt, sont des prévenus.
Les maisons d'arrêt où l'on héberge les gens qui sont en attente de jugement d'une part et les condamnés à des peines très courtes d'autre part, sont surpeuplées aujourd'hui. Il y a à peu près 40% de personnes en trop. Hein, donc ça veut dire qu'on est trois dans une cellule au lieu de deux, etc. Donc c'est des conditions de vie très, très difficiles. Et je sais que dans beaucoup d'autres pays, c'est la même chose. Bon. Il ne faut pas cependant résumer la question carcérale à la question de la surpopulation. La surpopulation aggrave évidemment les conditions de vie. Elle rend beaucoup plus difficile la mission de la prison. Mais la question de l'enfermement va au-delà de la surpopulation. Et quand on aurait réglé par miracle, demain, toutes les questions de surpopulation, la question de la dignité des personnes en prison resterait posée. Au fond, ce qui nous rassemble tous, je crois, dans ce que vous avez dit, nous sommes tous des êtres humains, sommes-nous tous traités dignement? Et est-ce qu'on est traité dignement, y compris dans les prisons où l'on enferme partout dans le monde? La question sera posée même lorsque la surpopulation aura disparu.
Alors le plan de Jean-Jacques Urvoas, c'est 10 000 cellules supplémentaires en 10 ans, avec plus d'un milliard déjà de dépenses pour 2017 pour 3 900 nouvelles cellules. Hein, vous le disiez bien, on est bien donc dans le désengorger les cellules, avec un objectif 80% de détenus en cellules individuelles, ce qui d'ailleurs figure dans une loi qui date d'il y a un certain temps.
1875.
Exactement. Pour vous qui sillonnez les prisons depuis des années, est-ce que c'est la bonne approche, le désengorgement, donc la construction de nouvelles cellules ou pas? Vous disiez que la question de la prison ne doit pas se résumer à la surpopulation. Voilà. Néanmoins, elle est réelle et elle est assez terrifiante pour le quotidien des détenus.
Alors, je crois que le plan qui a été présenté hier repose sur l'idée que la surpopulation carcérale est le premier problème de la prison française. J'ai déjà répondu à cette question. Bon. Ceci étant, il ne faut pas évidemment nier les effets. Il ne faut pas aussi nier le fait que beaucoup de personnes en France aspirent à être dans une cellule individuelle. L'encellulement en commun suppose qu'on s'entende bien avec son co-détenu. Ce n'est pas toujours le cas. On peut subir des violences, on peut subir des pressions. Il y a des détenus transformés en femmes de ménage pour d'autres, etc. Bon. Donc l'encellulement individuel, je crois, qui est en effet quelque chose qui a été conçu très anciennement en France, est une nécessité. D'ailleurs, dans les centres de détention, qui sont les établissements pénitentiaires pour les longues peines en France, les personnes sont en cellules individuelles. Donc ça prouve bien qu'on a fait le calcul que c'était un bien, les cellules individuelles. Bon, on est très loin du compte. Par conséquent, le fait qu'on veuille mettre les personnes en cellules individuelles, y compris en maison d'arrêt, n'est pas mauvais en soi. La question, c'est de savoir si on va y parvenir et si la France a les moyens de se payer ça. Personnellement, j'en doute. Alors, il y a d'autres choses dans ce plan qui méritent considération. C'est la question de savoir si on vide les prisons à temps. Autrement dit, la surpopulation carcérale, c'est diminuer les entrées, c'est peut-être aussi augmenter les sorties. Et c'est là qu'on manque de débat sur la prison. Je crois que la question de sortie, c'est la question de l'aménagement de peine, au fond. Est-ce qu'on peut anticiper sur une date de libération prévue par le juge initial pour dire « la personne s'est tellement bien conduite en détention, elle a tellement changé depuis son emprisonnement qu'on peut désormais la libérer par anticipation ». L'opinion ne comprend massivement pas cela. Hein. Elle imagine que dès lors qu'on est condamné à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, on doit faire 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Notre système judiciaire repose sur une autre conception qui est qu'on doit pouvoir changer en détention. La prison sert aussi, vous posiez la question au début, à changer les gens. Et par conséquent, le cas échéant, on doit pouvoir les libérer plus tôt. Ça, l'opinion ne le comprend pas du tout.
Mais l'opinion se pose surtout la question, quelle est la raison de la surpopulation carcérale? Est-ce qu'il y a une augmentation des actes condamnables ou bien une augmentation des condamnations et un durcissement des peines? C'est pas la même chose.
Comme je l'ai dit, je crois qu'il y a vraiment un découplage entre la réalité de la délinquance et la réalité de l'incarcération. Je veux dire que le nombre de détenus n'est pas en relation directe avec le nombre d'actes de délinquance. Toutes les statistiques le prouvent.
Donc vous dites qu'il y a une augmentation des condamnations et un durcissement des peines.
Oui.
Globalement, vous, c'est ce que vous dites.
Très simplement, depuis 2000, en gros, depuis 15 ans, je parle de la France, les actes de délinquance sont autour de 4 millions de faits enregistrés et la population carcérale s'est accrue des deux tiers depuis 2000. Donc, il y a bien un décrochage entre l'augmentation de la population carcérale et les actes de délinquance. Donc, c'est le système judiciaire qui est en cause, c'est le durcissement des lois pénales qui est en cause, c'est la manière dont chaque juge considère que chaque affaire qui lui est soumise doit être punie plus sévèrement, le cas échéant.
Bernard Bolz, alors vous avez fondé l'Observatoire international des prisons il y a 25 ans et sur le tout nouveau site Prison Insider, on va parler de ce site qui vient d'être lancé, mais il y a une réaction collective qui a été signée par de nombreuses organisations internationales au plan Urvoa, c'est à la logique de construire toujours plus.
Oui. Effectivement, une conférence de presse hier d'associations françaises qui se sont réunies pour une plateforme en commun et pour dénoncer cet esprit qui consiste à dire qu'on construirait des prisons et on réglerait le nombre de places. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un sentiment assez partagé chez les personnes qui ont une certaine forme d'expertise sur cette question, qu'on ne règle pas le problème du surencombrement en construisant des prisons. C'est dit et redit. Et puis, vous savez, vous disiez tout à l'heure le chiffre où M. Rivas annonçait le chiffre de 3500 ou 3800 places pour l'année prochaine.
3900.
3900. Un établissement, c'est aujourd'hui 690 places, entre 600 et 690 places. On va dire 500 cellules parce qu'il y a des cellules doubles. Pour construire 4900 places, c'est une dizaine d'établissements. Quand on sait que construire un établissement prend des années et des années, entre le choix de l'emplacement, la mobilisation nécessaire des collectivités pour trouver ce lieu, pour se mettre d'accord, etc. Mmh. Donc, c'est un effet d'annonce. Et moi, ce que je trouve ahurissant, c'est que aujourd'hui, la prison est l'otage de l'idéologie. C'est-à-dire que les gouvernements qui se succèdent nous servent un discours idéologique sur la prison, pas du tout un discours pragmatique qui pourrait être entendu de l'opinion publique, à savoir qu'est-ce qui est efficace. Parce que ce qu'on cherche, c'est quand même l'efficacité. L'efficacité, c'est qu'il y ait moins de victimes. C'est diminuer le nombre. Et ceux qui prétendent être du côté des victimes sont ceux-là même qui vont accuser la justice de laxisme parce qu'elle aménagerait des peines. Or, une peine aménagée fait moins de victimes, puisque les gens sont moins dans la récidive. Et donc, on est dans un discours, on est l'otage des idéologues qui se sont emparés de la prison pour nous faire une démonstration qui est mauvaise.
À ce propos, il existe des pays où l'idéologie est moins forte, justement, pénalise moins l'opinion de penser par elle-même. Le Canada est souvent cité en exemple là-dessus, avec une vision plus pragmatique.
Moi, je crois qu'il y a des pays, en effet, où on prend avec beaucoup plus de sérieux la fonction de réinsertion de la prison. Autrement dit, la prison, elle sert à punir, donc on y met les gens qu'on estime devoir y mettre, mais il faut que ces gens sortent différemment du jour où ils sont rentrés. Et il y a des pays, par conséquent, où l'accent est fortement mis sur ce point, le Canada est l'un de ceux-là, mais moi, je voudrais prendre deux exemples peut-être un peu plus proches. La Scandinavie, en général, soigne énormément les gens, si je puis dire, en prison, non pas pour leur bien-être, mais pour faire en sorte qu'ils évoluent. Et le deuxième exemple, c'est l'Espagne, qui, après la dictature franquiste, par la volonté, la seule volonté des politiques, qui n'étaient pas des idéologues en l'espèce, a transformé radicalement son système carcéral. C'est pas loin de nous, l'Espagne. Hein. De telle sorte qu'aujourd'hui, les conditions de vie dans les prisons espagnoles sont sans comparaison avec ce qu'elles sont en France.
Donc, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a concrètement beaucoup plus d'activités, il y a un confort, je mets ce mot entre guillemets, on ne peut pas être dans un confort quand on est en prison, mais il y a des installations matérielles, en tout cas, qui sont bien supérieures aux nôtres. Donc je crois qu'il y a vraiment une autre perspective donnée à la prison. Il y a des exemples, par conséquent, autour de nous qui montrent qu'on peut avoir une autre idée de la prison.
Alors, vous disiez, par exemple, l'encellulement individuel, c'est quelque chose qui est important pour la dignité humaine, mais il peut aussi avoir, lorsqu'il est pratiqué à outrance, lorsqu'on est seul dans sa cellule 23 heures sur 24, par exemple, avoir des effets dévastateurs sur le détenu. C'est le cas notamment aux États-Unis. Et dans votre livre « Prison, quel avenir ?», il y a évidemment tout un chapitre consacré à l'enfermement aux États-Unis qui est, dans sa conception des dispositifs de sécurité, sert encore de modèle sur l'aspect technique, architectural, à des visions comme en France.
Oui, vous soulevez beaucoup de problèmes, mais je voudrais d'abord rappeler que ce livre, c'est une œuvre collective, je ne suis pas le seul auteur. Deuxièmement, qu'aux États-Unis, il y a plusieurs systèmes de prisons, et moi j'ai visité des prisons où la vie collective, au contraire, est très très développée, y compris dans une prison de haute sécurité qu'il m'a été donné de voir en Pennsylvanie. Troisièmement, je crois qu'en France, le modèle carcéral, c'est celui que j'ai baptisé un jour celui de l'industrialisation de la captivité, c'est-à-dire que pendant longtemps en France, on a construit des petites prisons pour l'essentiel. Comme Bernard Bolz vient de le rappeler, aujourd'hui la norme c'est 690 places. Avec la surpopulation, on arrive à 900, quelquefois 1000 détenus dans une prison. Et on gère ça de façon industrielle, c'est-à-dire exactement comme, pardon de cette comparaison, mais de grands abattoirs ou de grands sites de production. Bon, on manipule les masses désormais en prison, alors qu'avant on s'intéressait à des personnes. Bon, donc je crois qu'on a fait des choix
architecturaux. Pour faire baisser les coûts aussi, pour faire baisser les coûts.
Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je compare souvent ça au logement social des années 60, la construction des prisons depuis 20 ans en France. On a misé sur le gigantisme pour faire des économies et on le paiera cher. Parce que la prison doit développer les traitements individuels des personnes qui s'y trouvent et non pas les gérer en masse. Voilà. Donc on va le payer en violence, on va le payer en récidive et ce sont des coûts qui vont durer très très longtemps. Donc je crois qu'il faut faire le chemin inverse de celui qu'on fait depuis 30 ans.
Bernard Bolz, on parle dans quelques instants de ce site qui vient d'être lancé, Prison Insider. Comment ça fonctionne? Quelle utilité aussi? Parce que c'est un site international sur les situations carcérales. Je vous rappelle le numéro de téléphone, les voisins, si vous souhaitez intervenir sur les situations d'incarcération dans votre pays, 33 1 84 22 71 71.
Milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Bernard Bolz, vous avez fondé l'Observatoire international des prisons il y a plus de 25 ans, qui publiait régulièrement des rapports consultables par tous. Pourquoi aujourd'hui un site internet, Prison Insider?
Bon, l'internet n'est pas
une fin en soi.
C'est pas une fin en soi, c'est plus non plus une nouveauté. Mais c'est vrai qu'à l'origine de l'OIP, nous ne disposions pas de l'Internet parce qu'on est avant l'an 2000 et toutes les correspondances, les liens qu'on avait établis jusqu'à plus de 50 pays se faisaient par la poste. Donc c'était assez compliqué. On oublie que cette période est quand même assez contemporaine, mais tous nos échanges étaient postaux et ça mettait beaucoup de temps. Aujourd'hui, on peut disposer d'un outil qui non seulement apporte de l'information à tout le monde, mais peut le faire à un coût extrêmement modeste. Et parfois même d'ailleurs en accès libre. Donc voilà, c'était dommage de ne pas utiliser cet outil. Il se trouve que depuis la fin de l'OIP dans sa dimension internationale, puisqu'une section française demeure et travaille bien, et d'autres sections d'ailleurs, mais ne sont plus coordonnées. Et donc, c'est
Faute de quoi? Faute de moyens finalement?
Faute de moyens et puis peut-être faute de volonté collective, de s'inventer un discours en commun. Et c'était une surprise. Je suis allé voir, par exemple, les responsables de la Fédération internationale des droits de l'homme qui m'ont dit c'est vrai qu'en 15 ans, on n'a pas vu arriver une organisation qui s'emparerait de ce territoire en disant on va produire en commun une information sur l'état de nos prisons, accessible à tout le monde, en plusieurs langues.
Et collaboratif aussi, et qui peut être alimenté par tout le monde, avec certaines réserves. Alors, on va en parler juste après le flash. À quoi ça va servir, ce site? Comment va être alimenté le site qui est en trois langues? Avec quelle équipe? Est-ce que c'est consultable vraiment par tous? Et finalement, est-ce que chaque citoyen doit savoir comment est exécutée une sentence de justice en son propre nom? Vous restez tous les deux avec nous, Bernard Bolz, Jean-Marie de la rue. Et quant à vous, les voisins, vous pouvez bien sûr participer aux discussions sur les prisons dans votre pays. 33 1 84 22 71 71. Retour dans 3 petites minutes, juste après le flash.
À l'occasion. 7 milliards de voisins. on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite de 7 milliards de voisins sur RFI. Quel avenir pour les prisons? Faut-il en construire toujours plus? Comment appréhender la détention? Est-ce la seule solution à l'exécution d'une peine, d'une condamnation? Entre sécurité, mise à l'écart, pénitence, rééducation, réinsertion, le monde carcéral et les questions qui en découlent sont par définition difficiles d'accès pour les citoyens, tout comme l'est la prison en général, éloignée géographiquement des lieux de vie des citoyens. Nous en discutons avec vous, Jean-Marie Delarue, conseiller d'État, premier contrôleur général des lieux de privation de liberté en France. Et vous publiez, c'est un ouvrage collectif que vous avez coordonné, Prison, quel avenir, pour permettre aux citoyens de se poser les bonnes questions. Et Bernard Bols, vous êtes le fondateur il y a 25 ans de l'Observatoire international des prisons, l'OIP. Et vous venez de lancer, là, ça vient juste de démarrer, ce site internet Prison Insider, pour justement que le débat sur les prisons ne soit pas confisqué. C'est un site qui va être alimenté en permanence, hein, c'est bien cela, à l'échelle internationale. Comment allez-vous faire? Parce que tout de même, c'est pas simple. Il y a quoi, plus de 10 millions de prisonniers dans le monde, beaucoup de lieux de détention qui ne sont pas connus d'ailleurs.
Alors le jeu, en quelque sorte, consiste à identifier dans un pays des correspondants. Ces correspondants sont des militants locaux. Ça peut être un collectif d'avocats, ça peut être un groupe d'universitaires. On préfère quand c'est un groupe de militants qui se mobilisent sur les droits humains et qui s'intéressent à la question de l'enfermement. Ce n'est pas si facile que ça, finalement, de savoir ce qui se passe dans une prison. Ce groupe-là, on lui fournit, ou cette équipe, ou ces personnes-là, on leur fournit une grille d'analyse. Et d'ailleurs, Jean-Marie Delarue, en créant l'institution du contrôle général, nous avait invités à faire une grille à l'époque, pour visiter les établissements pénitentiaires, mais les autres établissements de privation de liberté également. Donc une grille qui passe en revue la vie quotidienne des prisonniers. Depuis, bien sûr, les locaux, les personnels, et puis ce qu'on appelle les droits fondamentaux, qui est un beau nom un peu compliqué pour dire la façon dont on est nourri, dont on se soigne, on peut maintenir son hygiène, ou ne pas le faire, ne pas être en mesure de le faire. Donc, on fait cette grille, on invite nos correspondants à renseigner ces informations en actualisant pour une année, en disant voilà les événements marquants qui se sont passés. Alors ça, c'est avoir à un moment donné une information factuelle sur l'état des prisons d'un pays. Mais c'est un lieu de ressources aussi, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'autres informations auxquelles on peut accéder. Et je pense notamment à des vidéos. On va inviter les personnes détenues ou leurs proches à nous fournir des petites vidéos. Beaucoup de personnes utilisent des smartphones, y compris d'ailleurs dans des prisons africaines.
C'est une espèce de Facebook des prisons.
Voilà, il faut qu'on puisse témoigner et que des gens aient le courage à un moment donné de transmettre cette information. Et certains le font déjà. Alors, des universitaires font des travaux, je pense, sur l'Afrique. J'ai rencontré récemment, dans un colloque de l'École normale supérieure, des personnes qui travaillaient en Afrique, je pense au Sénégal, par exemple, sur l'histoire des prisons sénégalaises, mais qui nous informent, qui nous disent quelque chose de l'enfermement contemporain.
Oui, donc ça ne sera pas un site qui sera refermé, réservé à des experts. Hein. Ça va être tout le contraire. Jean-Marie Delarue, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative? Et surtout, est-ce que c'est de nature à faire bouger les choses, faire bouger les décisions politiques et l'opinion?
Moi, je pense bien entendu que c'est une excellente chose parce que ça vient combler une lacune grave. On est mal informé sur les prisons, on a beaucoup de préjugés sur les prisons et sur les gens qui s'y trouvent. Deuxièmement, c'est un site qui va venir aider les détenus et leurs proches qui sont souvent dans une difficulté noire. Bon. Et troisièmement, c'est en effet quelque chose qui peut-être aidera à faire évoluer l'opinion. Je crois que la difficulté la plus grave pour la réforme des prisons, c'est la conviction qu'ont la plupart des gens que les gens sont en prison, ils l'ont bien mérité, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Bon. Et je crois qu'il faut dissiper cette conviction, et tant mieux si ce site sert à faire évoluer l'opinion. Enfin, il y a des experts qui ont besoin de comparaisons internationales, de savoir qui fait quoi dans tel pays, pour avoir une idée de si son pays est aussi bien ou plus mal que d'autres. Et je crois que ce site servira. Donc il a un triple intérêt et je lui souhaite beaucoup de succès et longue vie. Je crois qu'il faut que chacun sente en allant y voir que c'est aussi sa propre affaire. C'est pas sa propre affaire parce qu'il n'est pas en prison et qu'il n'a rien à y faire. C'est sa propre affaire parce que c'est un citoyen et il a quelque chose à voir avec la façon dont les prisons de son pays sont faites.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, où que vous soyez dans le monde, si vous vous sentez concerné par le sujet aujourd'hui sur les prisons. Nous accueillons un voisin qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Achille.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les 7 milliards de voisins.
Achille, vous livrez du pain à la prison de New Bell de Douala au Cameroun, et c'est pour cela que vous avez envie d'intervenir dans l'émission ?
Oui, je suis un habitué des couloirs de cette prison-là. Je profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil à tous les gardiens de prison.
Et les détenus qui ont la chance d'avoir la radio peut-être ?
Oui, je te dis qu'on a la chance d'avoir une radio. Bon, comme je l'ai dit, c'est des conditions très difficiles. Au moins, le premier constat qu'il faut faire, c'est que s'il y a au moins un ou deux prisonniers qui reviennent sur trois, c'est-à-dire que quand ils ont purgé leur peine, à peine ils ont mis les pieds dehors, ils reviennent. Bon, s'il est entendu que la première fonction de la prison, c'est de resocialiser, de ce point de vue-là, nos prisons ont plus ou moins échoué. Donc, cela est dû en partie aux conditions. Parce que chez nous, on a une spécificité. Il y a ces prisonniers qui dorment à l'air libre. Ils ont une appellation qui est bien triste. On les appelle des pingouins.
Oui.
C'est ceux-là qui n'ont pas de cellules. Ils dorment carrément en plein air. Tant pis pour eux s'il pleut. Et un autre constat, c'est que malheureusement, il y a très peu de travaux qui sont faits sur le milieu carcéral. Et ce qui me frappe après l'analyse de vos invités, c'est que finalement, on a presque le même modèle carcéral avec les mêmes conséquences. C'est-à-dire que la récidive, il y a toujours des récidives, il y a cette surpopulation carcérale. Donc c'est presque, ça se rapproche. Et puis, ces derniers temps, on a opté pour la construction d'autres prisons. Et il faut aussi dire que le régisseur de la prison centrale de Douala fait des efforts. Lui, quand même, il a intensifié un certain nombre de cultes, les cultes religieux. Donc, il y a des évêques, il y a des pasteurs réveillés qui, de temps en temps, viennent en prison prêcher la bonne parole. Alors, c'est vrai que l'impact n'est pas encore suffisant. Mais bon, on espère que à l'avenir, ça pourra porter des fruits. Et sinon, c'est des conditions inhumaines. Et ça s'améliore.
Mais dans le fond, Achille, ce que je comprends dans votre témoignage, c'est qu'à la fois, vous jugez la prison au Cameroun scandaleuse sur le plan des droits humains et inefficace.
Plus ou moins, parce que...
Puisque vous parliez de la récidive et qu'une majorité des détenus retournaient en prison pour d'autres condamnations.
Oui, c'est vraiment le cas de le dire. Bon, je ne dirais pas qu'elle est inefficace. Il y a des choses qui ne sont pas faites.
En tout cas, vous posez de bonnes questions. Merci beaucoup pour ce témoignage d'un citoyen pas ordinaire, puisque vous avez l'occasion de fréquenter en tant que prestataire de service, si on peut dire, la prison de New Bell à Douala. Vous souhaitez réagir, Bernard Bols ?
Oui, ces témoignages sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous plongent dans la vie quotidienne. On a l'impression de voir l'établissement. Et on a besoin de voir les établissements parce que ce qui est caché, bien sûr, on est obligé de l'imaginer. Et nous, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et dans une prison, c'est aussi un endroit où on va trouver des solidarités. On va trouver des gens qui s'entraident. Et on va trouver des aspects communs à ces établissements qui nous appartiennent à ce moment-là de comparer, je vais dire, en quoi. Par exemple, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le nombre de détenus pour 100 000 habitants, le taux d'incarcération. Eh bien, selon les pays d'Afrique, ce taux d'incarcération peut varier beaucoup, avec des cultures qui sont parfois assez proches. Mais ça veut dire qu'il y a une pratique, une culture dans un propre pays qui va faire en sorte que le nombre de personnes détenues va varier. Alors, cet élément-là est un élément décisif puisqu'on n'est pas tout le temps en train de chercher la bonne prison qui n'existe pas, mais comment on peut trouver des alternatives à des moments à l'enfermement. Et donc, quand le taux d'incarcération est plus faible, ça veut dire qu'on a trouvé des façons de sanctionner qui sont souvent plus astucieuses, plus intelligentes.
Justement, avant qu'on arrive à l'alternative à la prison, Jean-Marie Delarue, je sais que vous avez visité de nombreuses prisons dans le monde. Les prisons camerounaises ne sont pas réputées pour être très ouvertes aux visiteurs extérieurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter des prisons sur le continent africain que vous évoque le témoignage d'Achille.
Je voudrais le remercier pour son témoignage puisqu'il a donné quelques éléments essentiels. Mais je voudrais dire aussi, puisque en faisant état, comme vous l'avez fait, de ce qui livre du pain en prison, que pour moi, un des bons indices de la situation carcérale d'un pays, c'est son ouverture à l'extérieur. C'est-à-dire à des personnes qui viennent du dehors communiquer avec les personnes qui sont dedans. Et je crois qu'une des principales évolutions de la prison, par exemple en France depuis 30 ans, c'est une relative ouverture vers l'extérieur. Et c'est les personnes qui viennent de l'extérieur qui feront évoluer la prison. Bien sûr, moi, je veux rendre hommage, comme tout le monde, au personnel pénitentiaire qui ont des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles. Mais spontanément, ils ne feront pas beaucoup évoluer la prison parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est qu'elle reste telle qu'elle est, immobile, dans un rapport de discipline très stricte, on va le dire. Bon. Et je crois que plus la prison s'ouvre à l'extérieur, et par exemple, elle pourrait s'ouvrir à Internet, pourquoi pas ? Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Eh bien, mieux elle se porte.
Officiellement, en tout cas.
Et plus on facilitera la resocialisation, comme disait notre ami Achille, des détenus. Vous savez, il disait, les gens reviennent en prison. En France, la première grande loi sur la prison, elle date de 1875. Donc, c'est au 19e siècle qu'on a inventé la prison en France. Avant, ce n'était pas le cas. Et à partir de 1885, 10 ans après, on se demande, mais pourquoi il y a tant de récidives ?
Alors justement, est-ce que les conditions...
C'est des questions qu'on se pose encore aujourd'hui.
Est-ce qu'aujourd'hui, on sait scientifiquement si les conditions d'incarcération sont complètement liées aux chances de réinsertion et donc à moins de récidives, donc moins de dangers pour la population ?
On sait bien en tout cas que dans les prisons françaises, comme je crois dans beaucoup de prisons africaines, on n'offre pas beaucoup d'activités aux détenus. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, la plupart d'entre eux, au moins dans les établissements qu'on appelle maisons d'arrêt, sont 23 heures sur 24 en cellule. Et ce n'est pas en restant là qu'ils vont apprendre à se réinsérer dans notre société, à devenir comme nous autres, à supposer qu'ils ne le soient pas. Et donc je crois que plus on leur donnera des chances de vivre en détention de manière aussi proche que possible de la nôtre, on n'effacera jamais la rupture qu'est la prison. Mais plus on leur donnera ces chances-là, plus ils auront des chances de retrouver, j'allais dire, la vraie vie après. S'ils vivent de façon tellement particulière, en plus avec les humiliations, la violence, la rupture familiale, etc., comment voulez-vous qu'à la sortie de prison, ils se comportent comme nous autres ?
Je voudrais qu'on reparle des comparaisons internationales et surtout des effets extrêmement intenses que ça peut avoir sur l'opinion. Parce qu'on est dans un monde globalisé et l'opinion aime bien savoir comment se situe son pays, pour quel que soit le sujet d'ailleurs, hein, par rapport au reste du monde. Vous, Jean-Marie Delarue, vous êtes vraiment connu comme l'homme qui a expliqué aux Français qu'il a des prisons totalement indignes d'un pays développé européen. Bernard Boll, et Jean-Marie Delarue, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont les différences qu'on peut avoir à l'intérieur même du monde développé, par exemple,
d'un système pénitentiaire à un autre ? Je vais vous donner un exemple. J'ai visité pendant plus de 30 ans une personne qui a exécuté 35 ans de prison. En deux fois. Quand je le visitais, je demandais un permis de visite. Je l'avais obtenu. Il change d'établissement. J'écris au nouvel établissement, au directeur du nouvel établissement, en disant je bénéficiais d'un permis de visite, j'aimerais le voir. J'attends 3 semaines, un document qu'on me renvoie. On me dit signez une autorisation pour que la gendarmerie fasse une enquête sur vous. J'attends des semaines et des semaines. Je finis par obtenir mon permis de visite. Je suis allé visiter, et donc ça a duré 30 ans. Je suis allé visiter un détenu au centre de l'Espagne qui me téléphone. Il me dit voilà, je suis à Daroca, dans un centre de l'Espagne. Est-ce que tu voudrais venir me voir ? Je lui ai dit oui, comment on fait ? Il me dit rien, tu viens, puis tu sonnes à la porte. Tu as une carte d'identité. J'ai fait 1000 km en voiture. J'espérais que son système allait marcher. J'ai fait 6000 km en voiture. J'ai sonné à la porte et je suis rentré.
le droit de visite ne doit pas s'ajouter à la privation de liberté, pour vous, Jean-Marie Delarue.
La rupture avec une femme, avec des enfants, est une souffrance pour tous les détenus. Et puis, réciproquement, comme d'ailleurs on l'a expliqué hier au lancement de Prison Insider, c'est une souffrance pour les épouses d'être privées de leur mari, etc. Donc, plus on aménage les conditions, plus on facilite les visites, plus on atténue la rupture de ces liens familiaux qui aide à la reconstruction d'une personne, plus évidemment les choses vont dans le bon sens. On est, comme Bernard vient de le dire, encore très loin du compte en France aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, bien sûr qu'il y a des échelles de méfiance, de dureté, de conditions.
Aujourd'hui en France, on est toujours à quel niveau en termes de qualité ou de non-qualité des prisons par rapport à d'autres pays?
Je crois que d'autres que nous l'ont dit bien avant nous. Je veux dire que le commissaire européen des droits de l'homme, en visitant la France en 2006, a dit quelque chose, on lui a beaucoup reproché cette phrase. Ici, je trouve des prisons que je n'ai vues qu'en Moldavie. Bon, c'était une comparaison qui n'était pas très flatteuse, mais parce que la Moldavie, c'est pas très bien non plus. Mais je pense que ça correspondait à une réalité. Nous sommes à la traîne en Europe pour les prisons, même si, bien sûr, par rapport à d'autres pays moins développés, les conditions de vie sont moins indignes. Mais la question de la dignité doit être au centre des réflexions politiques sur la prison.
Jean-Marie Delarue, Bernard Bols, on arrive bientôt au terme de cette émission. Si vous voulez bien rester avec nous jusqu'à la fin. Dans quelques instants, nous allons donner la parole à une militante de la société civile au Tchad, Céline Narmadji, du collectif Trop c'est trop. Elle a été d'ailleurs incarcérée récemment au nom de son engagement. Elle est de passage à Paris grâce à Amnesty International. Ça sera juste après Kendrick Lamar.
To be jealous of him and to follow. I used to be jealous of him and to follow. He was the one to follow. He was the only leader foreseeing brighter tomorrows. He would live in the gym. We was living in sorrow. Total envy of him. He made his dream become a reality, actually making it possible to swim. His way up out of Compton with furthermore to accomplish. Graduate with honors, a sponsor of basketball scholars. It's 2004 and I'm watching him score 30. Remember vividly how them victory points had hurt me. Cause every basket was a reaction or a reminder that we was just moving backwards. The bungalow where you find us, the art of us ditching classes, headed nowhere fast. Stick my head inside the study hall, he focused on math. Determination, ambition, plus dedication and wisdom. Qualities he was given was the shit we didn't have. Dug inside of his book bag when Coach Palmer asked for his finals. He had his back like a spinal. Meanwhile, we singing the same old song. Spinning the vinyl, 11 graders gone wrong. He focused on the NBA, we focused on some Patron. Now watch that black boy fly.
Nous donnons maintenant la parole à Céline Narmadji, 51 ans. Elle a passé la moitié de sa vie à combattre les injustices dans son pays, le Tchad. Aujourd'hui, elle est porte-parole du collectif Trop c'est trop, qui réclame l'alternance politique et le départ du président Déby au pouvoir depuis 26 ans après le dictateur Hissène Habré. Charlie Dupiot a rencontré hier cette militante engagée, une vie d'ailleurs à laquelle elle n'était pas vraiment destinée.
Moi, j'ai fait plusieurs choses à la fois, mais je me résume à la couture et au secrétariat. Je voulais me professionnaliser là, mais la situation socio-économique et politique de mon pays m'a amené à tout quitter, laisser tout derrière moi et embrasser la défense des droits humains. Parce que dans un pays comme le Tchad, les violations sont permanentes. Le fait d'avoir des voix discordantes vous expose déjà aux menaces, aux intimidations, les arrestations arbitraires et tout ce qui s'ensuit. Quand Habré était au pouvoir, personne ne savait qu'il tuait les gens, mais il y avait la terreur. C'est comme un état policier. Mais on ne sait pas aussi ce qui s'est passé quand on arrêtait les gens. Quand Déby a repris les règnes de pouvoir en 1990, les assassinats ont continué. Je croyais que c'est vraiment un changement. Mais je me suis fait des illusions jusqu'à ce qu'on puisse éliminer le vice-président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Mais pourquoi on l'a assassiné? Je cherchais à savoir qu'est-ce qu'il a fait de mal le fait de dénoncer les choses est suffisant pour qu'on puisse l'assassiner. J'ai trouvé ça anormal. J'ai dit, ok, il faut lutter.
Vous, vous avez rejoint la Ligue tchadienne des droits de l'homme en 92 ?
92. J'ai commencé là doucement en tant que militante et la lutte a grandi en moi.
Comment votre entourage, vos parents ont vu cet engagement-là ?
Bon, le début était difficile. Une femme défenseur qui voudrait qu'il y ait un changement, c'est pas gagné. Parce qu'il y a trop de risques pour ma famille. On est dans un pays où la gâchette est facile. Tuer, là, c'est facile au Tchad. Donc, pour eux, c'est ça leur peur.
Vos parents ?
Oui, c'est trop risqué.
Vous avez réfléchi à arrêter ?
À quel prix il faut arrêter ? Au moment où tout le monde crie à la famine, il n'y a pas l'accès à l'eau. L'eau et l'électricité, c'est un luxe pour la majorité. La nourriture, c'est un luxe pour la majorité. Et pour faire quoi arrêter ? Ceux qui ont pillé le pays, là, quand ils ont même mal à la tête, ils prennent l'avion pour venir en France. Et ceux qui n'ont pas de moyens, quand est-ce qu'ils vont arriver en France pour se soigner ?
Aujourd'hui, le Tchad est 185e sur 188 pays dans le classement de l'indice de développement humain.
Est-ce qu'on peut concurrencer avec les autres pays qui font de l'éducation une vraie priorité ? La situation est vraiment alarmante. Ça aussi, le gouvernement a failli.
En 2004, vous avez fondé une association, l'Association des femmes pour le développement et la culture de la paix au Tchad. Qu'est-ce qu'elle fait, cette association ?
On intervient dans le sud du pays. Dans notre zone d'intervention, là, des mauvaises pratiques comme les mutilations génitales féminines, le viol des filles, le mariage forcé sont monnaie courante. Parce que certaines personnes de la région nous ont témoigné que chez eux, quand tu as besoin de la fille, tu la prends devant un puits quelque part, et vous envoyez vos amis qui vont prendre la fille et l'amener chez vous et c'est fini, le mariage est consommé. Le violeur devient plus tard le mari, il dit non, je l'ai pris pour l'épouser, c'est pas pour la détruire, parce que c'est lui qui veut de la femme. Mais est-ce que la femme veut de lui ? Est-ce que c'est avec son consentement ? Non. Et nous, on a dit non, il faut que ça change. Et on a commencé à travailler avec certains leaders traditionnels pour qu'ils puissent abandonner ça. Qu'est-ce que le viol ? Ils ne savent pas comme ça. Donc on leur donne les biabas. Les femmes et les enfants ont les mêmes droits que l'homme, parce que la majorité n'ont pas été à l'école, les chefs traditionnels. Il faut diluer ça, parfois en images.
Quelles images, par exemple ?
C'est des dessins. On dessine la fille et le garçon qui s'attrapent les mains pour aller à l'école. Et avant, la fille était en train de laver les assiettes et autres à la maison, elle regarde son frère en train d'aller à l'école. Donc, c'est pas bon. On met la croix rouge. On dessine un homme qui est en train de battre sa femme. On met la croix là-dessus. C'est les images. Et eux, ils sont attirés par plus des images que les discours théoriques. Et ça passe.
Vous avez été détenu là au printemps 2016, il y a quelques mois, pour incitation à un rassemblement non armé et trouble à l'ordre public. Avec trois autres militants dans une prison à N'Djamena, comment vous avez vécu ce moment-là ?
Bon, c'est un moment d'expérience. Parce que ce milieu-là, je ne l'ai jamais connu. Ce qui m'a frappé, c'est le traitement des prisonniers, surtout les prisonnières. Mais la prison de N'Djamena n'est qu'un mouroir. Les femmes n'ont que deux toilettes. Et c'est pour combien de gens ? Plus de 100 personnes. L'alimentation des prisonniers est un autre problème. Vous allez retrouver la trace des asticots. Les asticots dans la farine où on prépare la boule pour les gens. Il y a certaines personnes qui ont eu la gale en prison. Il y a un problème de la prise en charge des nourrissons. Il n'y a pas un coin de loisirs. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ils ont la télé, non ? La prison de France. Il a fallu qu'on arrive là pour vivre la chose avec les prisonniers. On doit les sanctionner conformément aux textes et lois existants, mais ne pas les traiter comme des animaux. Ça m'encourage à aller de l'avant, à protéger les sans-voix.
Céline Narmadji, militante des droits de l'homme de la société civile pour le collectif Trop c'est trop, vous apprécierez la petite pique sur les détenus qui ont la télé en France, Jean-Marie Delarue.
La télé est un bien pour les détenus en France et donc tant mieux si elle est ailleurs. Moi, je trouve ce témoignage évidemment poignant, comme chacun d'entre nous. Je voudrais dire que dans ce monde globalisé, il faut apprendre à développer la solidarité. Je voudrais dire à Céline qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule dans son pays, bien sûr, mais elle n'est pas seule. Moi, je vis dans un pays dont la devise porte le nom de fraternité. et je voudrais que la fraternité gagne comme la globalisation gagne. Et la fraternité, ça consiste notamment à vouloir faire respecter la dignité de chacun dans tous les pays. Il y a quelque chose qui peut nous aider, c'est le développement du droit international en la matière. C'est-à-dire les conventions internationales, il y a une charte africaine des droits de l'homme, avec des commissions qui sont chargées de veiller à son application, comme il y a une Convention européenne des droits de l'homme. Donc je crois qu'il y a des outils. Il importe à chacun de s'en emparer. Il importe à chacun d'aider aussi ceux qui n'arrivent pas à le faire. Et je crois que la situation des prisons françaises évoluera aussi de cette manière-là, comme il faut espérer que la situation des prisons africaines évoluera. Ce qu'elle a dit sur les prisons tchadiennes, évidemment, et d'une tristesse incommensurable, mais il faut avoir l'espoir chevillé au corps.
Notamment grâce à l'action aussi des associations, des ONG et de sites collaboratifs comme celui que vous venez de lancer, Bernard Bols, qui vient tout juste de démarrer, Prison Insider.
Moi, ce que je voulais saluer, c'est d'une part les informations que cette femme nous fournit, mais beaucoup son courage. Et effectivement, dans beaucoup des pays concernés par une grande misère des prisons et des atteintes aux droits fondamentaux des personnes, eh bien, il y a un courage extraordinaire à la mesure de ces atteintes-là. Mon Prison Insider peut se consulter maintenant sur Internet et nous souhaitons vraiment que les uns et les autres apportent leur témoignage. Si leur pays ne figure pas sur le site, qu'ils nous écrivent, qu'ils disent « voilà, on aimerait travailler avec vous ». C'est de la responsabilité de tout le monde. C'est de notre responsabilité.
On va donner justement l'adresse du site. Bien sûr, le lien est sur notre page 7 milliards de voisins, Bernard Bols.
Prison-insider.com. Voilà. Très facile.
Tout est noté, bien sûr, vous pouvez contacter le site, tout est noté sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Merci à tous les deux, Bernard Bols, Prison Insider, Jean-Marie Delarue, premier contrôleur général des lieux de privation de liberté. Vous publiez Prison, quel avenir aux presses universitaires de France. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons d'un tout autre sujet que je vous annonce dès demain matin. Merci à vous tous de votre fidélité.
RFI, la sélection.